bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes, qui va être très dynamique ce soir. Eh bien, rebonsoir.
Bonsoir
à toutes et à tous.
Bonsoir collectif.
À tous. Bah voilà, maintenant j'ai le droit.
Ah, si on parle tous en même temps, ça va pas marcher.
C'est pour dire bonsoir.
Et vous dites bonsoir à toutes nos auditeurs et auditrices. CGA, la coordination des groupes anarchistes, Idées Noires, c'est 20h, c'est Radio Canu et c'est nous. Allez.
Et donc c'est parti, je m'entends pas très bien, si c'est mieux comme ça. On va commencer comme d'habitude par les annonces. Alors on a 5-6 annonces à vous donner. On parlera tout à l'heure de la manif qu'il y a demain, du coup, contre la loi travail, mais on en parlera un peu plus grandement tout à l'heure. Donc on va commencer par autre chose avec le collectif des professionnels de l'urgence sociale qui appelle un rassemblement le jeudi 24 mars, donc demain, place de la République. Je vous lis un peu leur speech. Par ce rassemblement, soyons nombreux à rappeler à l'État que son code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence et donc exiger la non-remise à la rue des personnes hébergées dans le cadre du plan froid et la création de places d'hébergement pérennes et adaptées à la demande. Donc le rendez-vous, donc, c'est demain entre 16h et 19h, place de la République dans le 2e arrondissement. Ne pouvant plus travailler dans le contexte actuel, ce jeudi 24 mars, nous, professionnels de l'urgence sociale, appelons à la grève l'ensemble des salariés du secteur. Parce que l'État se désengage du secteur médico-social, le nombre de personnes vivant à la rue ne cesse de s'amplifier. Parce qu'à Lyon, plus de 1500 personnes appellent le 115 chaque jour sans se voir attribuer de place d'hébergement. Parce qu'encore cette année, le 31 mars signifie la fermeture des places d'hébergement hivernales et la remise à la rue de centaines de personnes. Parce que l'État ne respecte pas la continuité d'hébergement et la non-remise à la rue instaurée par cette loi. Parce que nous, citoyens, associations, travailleurs sociaux, ne pouvons que constater le silence des pouvoirs publics malgré nos différentes interpellations et mobilisations. Donc ce collectif des professionnels de l'urgence sociale exige la non-remise à la rue des personnes hébergées dans le cadre du plan froid, la création de places d'hébergement pérennes et adaptées à la demande. Donc voilà, avec ce rendez-vous, donc le 24 mars de 16h à 19h, place de la République dans le 2e arrondissement. Ensuite, et ça se passera, donc ça c'est un peu plus tard, c'est la semaine d'après, mais je le fais quand même, c'est un peu dans le désordre, hein, désolé. Ce sera le 1er avril, le vendredi 1er avril, avec une réunion débat avec Makis Anagnostou, travailleur dans l'usine autogérée Viomé. Donc c'est le nom d'une usine de Thessalonique dans le nord de la Grèce, devenue un symbole de résistance à l'austérité et de lutte pour la sauvegarde de l'emploi. Ça se passera à 19h au Palais du Travail de Villeurbanne. Donc je reviens un petit peu en arrière. Ensuite, le 25 mars, à l'émission d'avant, Canu Info, ils en ont parlé, une déambulation contre la publicité. Voilà, c'est bien, je vais me faire des petites blagues comme ça sur des papiers. Donc, je vais vous lire le truc, voilà que certaines antipubs se sont retrouvés à Lyon pour organiser une action de résistance à la publicité lors de la journée mondiale contre la pub. Lassé de subir les ignobles affichages, il et elle décident de vous donner rendez-vous le vendredi 25 mars à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la publicité au métro Cordelier au niveau du début de la rue de la République à partir de 17h30 pour boire un thé, pourquoi pas, se rencontrer et participer à une balade de recouvrement des obstacles publicitaires. En tant que jeune groupe informel portant des revendications individuelles multiples, chacun et chacune apportera des livres et tracts qu'il et elle veut partager sur le triporteur InfoKiosque qui déambulera avec nous. L'objet de cette rencontre, au-delà de répondre aux messages abusifs de la publicité et de saisir l'opportunité de réveiller une initiative déjà existante, Donc voilà, c'est pour le 25 mars et le lundi 28, eh ben, il y a revoyure pour celles et ceux qui veulent, peuvent au CEDRAT à 18h, donc c'est Montée-Saint-Sébastien, pour faire un bilan et organiser les prochaines actions. Notamment, si vous voulez vous attaquer à toutes ces pubs sur l'armée qui fleurissent sur tous les abris de puces de Lyon, vous pouvez y aller. Ça pique les yeux. Le même 25 mars, à 19h30, à l'Oblique, une cantine pour cantiner. Voilà, donc envie de manger un bout tout en soutenant des prisonniers et prisonnières. Bah, venez à la prochaine édition de la cantine pour cantiner. Ça se passe à l'Oblique, quartier de la Doye. Et pour avoir l'adresse, c'est contacter cerise@riseup.net. Ensuite, on reparle du collectif Intermed. Avec un rendez-vous le samedi 26 mars à 14h au Sarrazineur, 46 rue de Cuir, dans le 4e métro Hénon. C'est un atelier à prix libre. Et donc l'intitulé, c'est « De l'institution à la réalité, l'atelier d'écriture du collectif Intermed ». Je vous lis juste le début. Quotidiennement, nous accompagnons dans nos structures médico-sociales des personnes en difficulté psychique et sociale, des personnes porteuses de handicap, etc. Mais surtout des personnes qui ont à participer pleinement à la vie sociale, quels que soient leurs moyens. Dans cette perspective, nos institutions devraient donc se présenter comme des organisations faites pour introduire leurs bénéficiaires à la complexité du monde social, notamment en les emmenant à réfléchir sur leurs conditions dans une perspective d'émancipation politique. Je vous laisse lire la suite, parce que c'est un peu long. Quoique très intéressant sur le site Rebellion. Et donc, où ce collectif donne rendez-vous le 26 mars, 14h, au Sarrazineur. Et ensuite, une rencontre débat à la librairie La Griffe autour du livre Les Néo-Paysans. Et donc, ce sera le samedi 26 mars. La Griffe, c'est toujours 5 rue Sébastien Griffe dans le 7e, avec Lucille Leclerc et Gaspard Dalens, auteur du livre Les Néo-Paysans, édition du Seuil, 2016. Donc, voilà pour les annonces. Et je crois que tu en as encore une qu'on avait déjà faite la semaine dernière, qu'on refait aujourd'hui.
Oui, donc je vais bien sûr répéter aujourd'hui et la semaine prochaine probablement, parce qu'il ne sera pas trop tard. Ouais. Ça sera pour le 4 avril, le 4 avril, c'est proposé, c'est un panorama du droit à l'avortement en Europe. Donc panorama qui est proposé par le collectif de défense de l'IVG dans le Rhône, ce collectif a plusieurs associations qui participent, le planning familial entre autres, la Ligue des droits de l'homme, enfin Femmes solidaires du Rhône, c'est écrit en tout petit, j'ai du mal à lire, Femmes, Égalité, etc., Sud, des syndicats, enfin bref,
il
y a aussi la CGA, donc que nous sommes partie prenante de ce collectif. Donc il y aura une projection du documentaire Yo Decido, El Tren de la Libertad. L'ai-je bien prononcé? C'est signé par 80 réalisatrices, un documentaire qui raconte donc la mobilisation des pro-choix en Espagne et ailleurs pour le droit à l'avortement. Donc je le répète, c'est ce 4 avril à 18h au Grand Amphi Lyon 2, c'est sur les quais.
Tout à fait.
C'est sur les quais, voilà. Alors il y a évidemment où sont les questions bien sûr qui se posent à l'heure actuelle, où les femmes peuvent-elles avorter, quelles nouvelles avancées, toujours avec des points d'interrogation, quelles régressions, qui sont les anti-choix, quelles sont leurs stratégies et leurs actions. Il y aura même motif, même punition je dirais le 7 avril à 19h30, mais cette fois ce sera au Palais du Travail, 9 places du docteur Lazare Goujon à Villeurbanne. Avec donc, comme je l'ai dit, projection, débat, etc., etc. Donc, de belles et grandes journées en perspective. Voilà.
Voilà pour les annonces. Et un peu comme toutes les semaines, parce que c'est important, à faire un petit point du coup sur la lutte contre la loi travail. Donc, vous avez suivi déjà sur les précédentes émissions, on avait fait des gros points sur ce que contenait cette loi, ce qu'elle contient toujours malgré les petits changements au profit de la CFDT et toujours du MEDEF par le gouvernement de cette loi. Et donc du coup, il y a de nouveau une mobilisation, notamment demain sur Lyon et dans plusieurs villes de France. Alors qu'on vient de faire tomber un micro à côté de moi.
N'importe quoi.
Et donc du coup, on voulait faire un petit point global aussi par rapport à ce qui se passe un peu partout et notamment avec la coordination nationale étudiante.
Ouais, du coup, je vais lire l'appel de la coordination nationale pour commencer. Nous, mandatés des assemblées générales de plus de 60 établissements d'enseignement supérieur, réunis en coordination nationale le 19 mars, poursuivrons jusqu'au bout le combat pour le retrait pur et simple de la loi travail. Loin d'être une attaque isolée, la loi travail fait suite à une longue série de contre-réformes mises en place par les gouvernements successifs qui n'ont eu de cesse de détruire une part de nos acquis sociaux, de développer la précarité, de s'attaquer aux services publics et de dévaloriser nos diplômes. La loi travail est une attaque d'une ampleur considérable car elle remet en cause tous les droits sociaux des salariés. 35 heures, protection garantie par le droit du travail, CDI, etc. Nous ne sommes pas de la chair à patron. La baisse de la rémunération des heures supplémentaires, la simplification des licenciements, des barèmes ridicules d'indemnisation en cas de licenciement abusif, le basculement vers la prédominance des accords d'entreprise, inversion de la hiérarchie des normes et toutes les autres mesures de la loi sont inacceptables et nous ramènent des dizaines d'années en arrière. D'aucuns nous disent qu'en tant qu'étudiants et étudiantes, nous ne connaissons rien au travail, mais pourtant, plus d'un étudiant et d'une étudiante sur deux a déjà été salarié. Nous savons ce qu'est la réalité du monde du travail et la précarité. Nous, étudiants et étudiantes, salariés, valons mieux que ça. De plus, ce projet de loi précarise encore plus les femmes, les personnes racisées ou LGBTQI, qui subissent déjà les temps partiels, les heures supplémentaires, un travail dévalorisant. Le mécanisme de négociation des droits au sein de chaque entreprise annulera les lois censées défendre l'égalité des droits. La mobilisation a commencé très fort, avec plus de 500 000 personnes dans la rue le mercredi 9 mars. Elle a obligé le gouvernement à reculer sur la question des apprentis, tout en maintenant le contenu profond de la loi. C'est pourquoi nous exigeons toujours le retrait sans négociation ni amendement de la loi travail. Si certaines organisations négocient des changements à la marge, la CFDT, la FAGE, etc., dont la garantie jeune, une mesure inadmissible qui revient à du travail offert aux entreprises, ce n'est pas en notre nom. Le 17 mars, nous sommes à nouveau descendus dans la rue, beaucoup plus nombreux, plus de 150 000, dans les cortèges dynamiques résultant de la convergence construite entre étudiants et étudiantes, lycéens et lycéennes qu'il faut renforcer. Nous avons aussi montré que nous ne sommes pas dupes des manœuvres du gouvernement et que ce n'est pas avec des modifications à la marge du projet de loi qu'on nous arrêtera. Le gouvernement semble quant à lui avoir compris le message, intensifiant la répression avec des fermetures d'universités pour empêcher les étudiants et étudiantes de se réunir ou de s'organiser. C'est une remise en cause intolérable de nos droits de grève et de réunion. Dans certaines universités, ces fermetures administratives ont été accompagnées de graves violences policières, avec le déploiement de CRS à l'intérieur même de nos campus, appelés par les présidences d'universités. Cela a été notamment le cas à Tolbiac, Strasbourg ou encore à Lyon. Nous condamnons cette répression et exigeons la libération immédiate et l'arrêt des poursuites contre toutes et tous nos camarades interpellés. Pourtant, le gouvernement est loin de nous faire plier. Notre mouvement a démarré puissamment sur des dizaines d'universités. Mais la colère qui s'est exprimée est encore loin d'être entièrement traduite dans les assemblées générales et dans la rue. C'est pourquoi la principale tâche du mouvement, dans les jours qui viennent, est celle de la massification par un travail d'explication sur les conséquences de la loi travail pour les jeunes et la structuration de la mobilisation dans chaque filière et département de nos universités. Pour cela, il est indispensable d'arrêter le fonctionnement normal des activités dans nos établissements en construisant la grève aux côtés des enseignants et enseignantes ou des personnels et, en généralisant sur tous nos campus. La grève est notre meilleure arme puisqu'elle permet à toutes et tous les étudiants et étudiantes de se libérer du temps pour s'adresser aux autres étudiants et étudiantes, mais aussi lycéens et lycéennes et aux salariés. Nous appelons les assemblées générales à mener un travail de convergence avec les salariés qui les entourent. Il est nécessaire de construire un mouvement de grève reconductible illimité dans la jeunesse et dans le monde du travail afin de faire reculer le gouvernement. Nous appelons donc l'ensemble des jeunes et des salariés ainsi que leurs organisations à rejoindre ces journées de grève et à poser des préavis reconductibles. Nous exigeons le retrait immédiat, total, définitif et sans négociation de la loi travail. La réduction et le partage du temps de travail à une semaine de 32 heures. La levée immédiate et définitive de l'état d'urgence ainsi que le retrait de la constitutionnalisation de cet état d'urgence et de la mesure de déchéance de nationalité. La fin de la répression et la relaxe de nos camarades inculpés, mobilisés contre la loi travail, syndicalistes de Goudière et toutes et tous les autres. La dispense d'assiduité des cours pendant les journées de mobilisation et pendant les assemblées générales. Nous appelons tous les secteurs à s'unir afin de faire aboutir nos revendications. Nous appelons toutes et tous les salariés, chômeurs, chômeuses, retraités, étudiants et étudiantes, lycéens et lycéennes dans la rue, le jeudi 24 mars à une journée de mobilisation nationale et à des manifestations, le jeudi 31 mars, aux côtés des organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires, à une journée de grève et manifestation massive qui doit ouvrir un mouvement de grève reconductible et illimité dans plusieurs secteurs de la société, le mardi 5 avril pour une journée de mobilisation nationale. Nous appelons aussi le 22 mars à une journée d'action coordonnée dans toutes les villes de France. Seule la lutte paye. Nous la mènerons jusqu'au retrait de la loi totale de la loi travail, pardon. Université Paris 8 Saint-Denis le 19 mars 2016.
Bah donc ça c'était la déclaration de la coordination nationale étudiante qui va se réunir de nouveau
La semaine prochaine. Non?
Je t'en prie, vas-y.
Bonsoir à tous. Du coup, j'étais à la coordination nationale étudiante de ce week-end et la prochaine se tiendra donc dans 2 semaines. C'est le week-end du 2 et du 3 avril à Rennes.
Donc voilà, pour continuer un petit peu à se regrouper et à faire avancer la lutte, Et donc, du coup, pour revenir un petit peu peut-être sur sur Lyon, dans cette semaine, il y a eu donc du coup plusieurs AG, c'est ça, cette semaine sur Lyon. Enfin, du coup, ça n'a pas arrêté, je crois.
C'est ça. Bah, comme depuis un moment, en fait, il y a déjà toujours une AG à Bron par semaine depuis deux ou trois semaines.
Oui, alors du coup, aujourd'hui s'est tenue la deuxième assemblée générale interfac sur la fac des quais. Hier s'est tenue, si je ne me trompe pas, la troisième ou quatrième assemblée générale de Lyon 2. Et à noter une nouveauté pour cette semaine, jeudi matin à 10h se tiendra à Bron, dans l'amphibé occupé, l'assemblée générale des personnels de l'université, qui commencent à se mobiliser.
D'accord. Un peu plus
ce qui est important quand même à noter. Hein.
Voilà. Et donc, du coup, on rappelle le rendez-vous pour demain, pour cette nouvelle journée de mobilisation. Donc, c'est la manif, elle part à 13h de Bellecour.
Elle part à 13h de Bellecour, en direction, encore une fois, donc, de la Bourse du Travail. Sauf que cette fois-ci, si je ne me trompe pas, le parcours est différent de celui de la semaine dernière. Et il passe par Jean Massé, c'est ça ?
C'est ça.
Ok. Et donc, du coup, on vous invite à rejoindre du coup, le cortège. Qui sera toujours là, qui est là depuis le début, Jeune Liberté à Lyon, de la CGA. Ouais. Et puis du coup, on voulait aussi vous inviter, si
cortège
vous...
plus dynamique, venir avec nous.
Participer du coup, si vous participez régulièrement, enfin depuis le début des manifs, vous êtes présente dans le cortège. Vous savez pas trop du coup après comment faire pour vous investir un peu plus, pour soit nous contacter, soit discuter un peu plus longuement sur la loi travail, mais aussi sur tout ce que nous pouvons proposer comme modèle de société derrière. On vous invite du coup, donc c'est vendredi soir, c'est ça?
Ouais. Ah oui, j'ai oublié d'en parler. Du coup, ouais, les jeunes libertaires Lyon proposent donc une ouverture spéciale de la Plume Noire vendredi soir à partir de 18h30, donc pour des discussions, rencontres autour de la loi travail, de l'état d'urgence, de toutes les mobilisations, les grèves. Donc voilà, ce sera bar, bouffe, il y aura de la musique, l'occasion de nous rencontrer, de discuter un peu, savoir ce qui se passe et savoir qui on est aussi.
C'est ce vendredi là. Hein.
Ah ouais.
Du coup, pour continuer, tant qu'on était un peu sur la mobilisation à l'université par rapport à la loi travail, il est bon à savoir qu'en ce moment se prépare une conférence sur la loi travail organisée par des universitaires de Lyon 2 qui travaillent avec ceux de Nanterre sur le projet alternatif de loi travail sur un code du travail qui serait progressiste. Cet événement est en préparation et je vous invite tous à vous tenir informés sur la page Facebook de l'Université Lyon 2 en lutte pour savoir quel jour et à quelle heure vous pourrez venir vous informer sur les conséquences concrètes et avoir un débat de fond sur la loi travail à l'amphithéâtre B de Bron.
Ok, bah du coup voilà, donc on vous rappelle le rendez-vous donc demain 13h, Bellecour pour le départ de la manif. Et si vous voulez discuter un peu plus du coup, parce que dans le cortège c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de choses à gérer, donc du coup on discute avec des personnes qui viennent nous interroger sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais on peut pas prendre non plus de 5 minutes beaucoup de fois, donc quand il se passe des choses un peu en marge de la manif aussi. Donc du coup, ce sera vraiment l'occasion de venir papoter tranquillement au local, d'être posé et de voilà, et puis que vous puissiez poser toutes vos questions sur voilà, sur qui on est, ce qu'on propose.
Dans une ambiance un peu plus relaxée qu'une manifestation,
voilà,
quoi.
Tout à fait. Et donc du coup, voilà, pour finir ce premier point, on vous propose de faire un premier jet de lutte sociale avant la première pause musicale.
Allez, c'est parti pour un premier jet, comme tu disais. Donc on va partir sur Reims. Alors, il y a une entreprise qui s'appelle Alpem, devinez, ben oui, il y a une grève, c'était le 14 mars, pour une hausse des salaires à hauteur de 125 euros, mais brut et mensuel. Alpem, on fabrique, du moins chez Alpem, on fabrique avec du papier, ben, des sacs et des emballages divers et variés depuis 60 ans. Et depuis 60 ans, bah, il n'y a jamais eu une seule grève dans cette entreprise. C'est un peu étonnant, mais ça existe encore. Les patrons vraiment cherchent la merde. En voilà encore une preuve. 10 grévistes sur 25 en ce 14 mars. Et puis à Chambéry, c'est une grève chez Renault PGA, ainsi qu'à Drumétaz également. C'est près de Chambéry, je suppose. En fait, c'est un garage Renault qui assure la distribution et l'entretien sur 8 sites en Savoie et en Haute-Savoie. La grève est bien suivie car on défend ici son pouvoir d'achat qui dénonce donc aussi une dégradation des revenus. En fait, c'est une grévette de 24 heures que les cadres et vendeurs ont boudé.
Allure en Haute-Saône, soutien et manifestation le 16 mars de 100 à 150 personnes qui sont toutes solidaires pour des demandeurs du droit d'asile. Puisque déboutés dans un premier temps, il leur fallait donc une aide précieuse et efficace. Eh bien, c'est fait. Et cela s'est fait devant la sous-préfecture pour 8 familles sous la menace d'une OQTF. Malheureusement, après une entrevue, la délégation est ressortie quelque peu déçue. Le préfet n'a pas osé disposer de son autorité pour régulariser les familles alors qu'il en a la possibilité. À Agen, en Lot-et-Garonne, eh ben, idem pour 2 collégiens scolarisés au collège Paul d'Angla. Le 18 mars, 150 personnes en mobilisation de soutien à Issa et Abdulrahman dans le collège, qui sont dans ce collège depuis 2015. Ils risquent, avec leur maman, d'être expulsés. Une demande d'asile a été rejetée, s'ensuivra donc une reconduite à la frontière et une expulsion, sauf évidemment si la mobilisation est forte. À Salis de Béarn, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, avec une grève dans un institut d'éducation motrice et de formation professionnelle. L'Institut du Hameau de Bellevue, c'est un établissement pour jeunes handicapés moteurs, 80 salariés, éducateurs, formateurs qui sont en bagarre suite à la mise en congé. C'est une manière très polie de dire que cette personne a été virée. C'était une psychologue à qui la direction reprochait de ne pas avoir gardé sa position de cadre. C'est-à-dire, autrement dit, elle s'est un tantinet un peu trop mélangé à la piétaille.
C'est ça, aux petits travailleurs et travailleuses.
Tout à fait. Donc la CGT et la CFDT associées avec le CAT, enfin la CAT, c'est une confédération autonome du travail, protestent. Il y a eu quand même un piquet de grève, qui est toujours d'ailleurs en place. À Ancenis, dans Loire-Atlantique, c'est une fonderie, donc des fondeurs de chez Bouillet. C'était le 16 mars avec la CFDT, la CGT, qui craignent un malaise. Donc, exhortent la direction à diversifier la production et sauver ainsi les emplois. Et pas que, puisqu'il y a aussi les salaires qui sont en question, les conditions de travail toujours, la polyvalence et puis l'effectif qui manque, évidemment. Et ben, ici aussi, les mini-grèves se multiplient. Besançon, il y a des horlogers, c'est pas une nouvelle, des horlogers, des horlogères d'ailleurs, qui sont en grève chez Fralsen, qui est un horloger donc, et aussi une filiale de Timex qui paye évidemment ses salariés avec 40 ans de boîte à coup de SMIC pour un travail d'horloger de pièces de précision. L'ENAO, c'est comme toutes les années, à coup de boutoir sur la direction. C'est le cas en ce 19 mars. 80% de grévistes. Les trésoreries vont bien pourtant chez Fralsen. Comme le dit du moins l'expert du comité d'entreprise avec la CGT et la CFDT. Et 5% de mieux donc sur les salaires, c'est ce qui est revendiqué. Avec un plancher à 160 euros, ça c'est ce qui est exigé par la CGT. Par contre, la CFDT, qui part sur un autre chemin, demande 60 à 110 euros et une prime de vacances à 150 euros. Ça, c'est donc pour la CFDT. Donc, faites vos calculs. Et la direction, elle propose tout bonnement un minable 0,8%. Et pour terminer cette première page, c'est La Réunion. À La Réunion, donc avec une grève le 19-03. Chez CFAO Motor, c'est la compagnie française d'Afrique occidentale. Réunion donc avec occupation et à la Réunion donc avec occupation et durée illimitée dans cette filiale de Toyota pour des conditions de travail et aussi en mémoire d'un travailleur délégué syndical qui est décédé en 2013, harcelé qu'il était après une lutte de 53 jours. Voilà pour cette première. Page.
Ouais, du coup, je suis désolé, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Je voulais aussi vous conseiller un petit texte par rapport à, pour revenir un peu sur la loi travail, avec un texte qui a été publié par le GISTI, je sais jamais comment on dit, c'est le groupe d'information et de soutien des immigrés, en collaboration avec le Syndicat National du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle CGT, Sud Travail, Union Syndicale Solidaire et UD CGT Paris. avec une demande de leur part, donc par rapport à la loi Code Travail, ils veulent bien une réforme, mais pour en finir avec les discriminations envers les étrangers. Et donc ces organisations signataires, et notamment le GISTI, demandent la suppression du régime de l'autorisation de travail par rapport aux travailleurs étrangers, la suppression de la taxe OFI due par toute entreprise qui emploie une personne étrangère, la délivrance d'une carte de séjour à toute personne qui occupe un emploi salarié de quelque durée et nature qu'il soit, et l'instauration pour les agents de contrôle des différentes administrations, notamment les inspecteurs et contrôleurs du travail et les agents des organismes de sécurité sociale, d'un pouvoir de régularisation sur simple constat de l'existence d'une relation de travail et signalement à la préfecture pour que soit délivré à la personne salariée un titre de séjour. Donc oui, on peut améliorer le code du travail, notamment en faveur des personnes étrangères. Et enfin, je suis désolé, on fait la petite pause musicale, c'est deux infos que j'avais oubliées tout à l'heure. On vous avait parlé la semaine dernière d'une mobilisation, donc c'était le jour de la manifestation, donc c'était jeudi dernier, au tribunal de grande instance avec une jeune lycéenne, Anna Danonnet, du coup qui était en centre de rétention, arrêtée le samedi et mise en centre de rétention. Et donc elle passait devant le tribunal, du coup elle a été gardée en centre de rétention jusqu'à samedi dernier, et samedi du coup elle passait devant le juge des libertés. Et donc du coup, bonne surprise, elle et sa maman ont été relâchées sur décision du juge et le parquet n'a pas fait appel. Donc ce qui veut dire que pour le moment, Anna et sa famille pourra rester du coup en France et sur Annonay. Elle pourra du coup finir son année scolaire et passer son bac. Mais après reste la question de l'après-bac. On sait des fois comment ça se passe. Ils peuvent laisser un petit peu de temps et derrière au mois de juillet, hop, l'arrêter de nouveau et la foutre en centre de rétention et l'expulser.
Il faut être vigilant, quoi.
Voilà, et il y a notamment une pétition qui tourne. Je vous donne l'adresse, donc c'est resf.info/P comme pétition en majuscule 3046. Vous allez là-dessus, vous pouvez signer la pétition, ça fera toujours du bien pour Anna et sa famille de voir qu'il y a du monde qui se bouge pour qu'elle puisse rester en France, notamment après son bac. Donc voilà. Et on va faire du coup une première pause musicale, c'est déjà 8h27 à l'horloge de Rio Canu.
Dans notre combat de lutte antimilitariste, il y en a pour 4 ans, hein, je vous le dis tout de suite, on va essayer de trouver des musiques. Bah oui, il y en a pour jusqu'à 2018, quoi, quand même, c'est les 100 ans de la boucherie, là. Donc il faut quand même de temps en temps rappeler que c'était une belle merde. Donc ce soir, on va écouter Serge Girolio avec. Il va interpréter Je gueulerai longtemps. Bah, on lui souhaite.
Longtemps avant que de me vendre sur ces salauds de gens qui disent me défendre, ces robots meurtriers écœurants de bassesse les 14 juillet où ils montrent leurs fesses. On maquille les armes pour qu'elle vous tranquillise. Faut croire qu'elle a du charme, la mort qui se déguise. On astique les bombes, on astique les cœurs. On balance les bombes et se taisent les cœurs. Je ne peux oublier qu'après mes épinards, je travaille à payer les avions et les chars. Et vous bavez de joie devant vos récepteurs, des hommes au pas de loi, ça donne chaud au cœur. Un bon coup de musique sur un rythme de pas, et la bête publique se réveille soldat. On chante la patrie, on tue docilement, on confond l'ennemi et ses refoulements. À l'est, les frontières, dit-on, sont dangereuses. Les pensées militaires sont toujours aussi creuses. L'étranger sanguinaire est toujours menaçant. Le manteau militaire nous protège du vent. Il n'y a que les autres qui aiment l'odeur du sang, qui défient à voix haute et qui tuent les enfants. Il n'y a que les autres qui aiment l'odeur du sang. L'armée défend les nôtres contre tout Allemand. Faudrait pas oublier que les leçons nazies ont été appliquées un jour en Algérie. Les Russes ne sont pas plus barbares que nous, mais si vous croyez ça, vous vivez à genoux. Et vous les camarades, et vous les compagnons, cessez la mascarade, désertez les légions. C'est vous les camarades, c'est vous les compagnons, qui tenez les grenades et qu'on prend pour des cons.
Il est noir sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes, et on va attaquer les seconds sujets.
Oui, voilà, donc on va revenir un petit peu sur les portiques de sécurité devant les lycées de la région Rhône-Alpes Auvergne, ou Auvergne-Rhône-Alpes, je ne sais pas comment on le dit. Sachant qu'il y aura bientôt un nouveau nom. Hein. Vous pouvez tous voter pour le nom de la nouvelle région, tout le monde s'en fout, mais il paraît qu'il y en a qui votent.
Hein, c'est vrai, on peut voter pour
grave, ça. Ouais. Ah ouais, parce que ça s'est fait dans d'autres régions, ouais, et du coup tu peux voter pour le nom que tu veux. Il y a des trucs qui sont proposés, et ça c'est formidable, tout le monde s'en fout, mais c'est comme ça.
C'est les lycéens qui devaient proposer d'ailleurs.
C'est plus le cas du coup. Les lycéens et lycéennes, par contre, pourront patienter une demi-heure devant leur bahut pour passer les fameux portiques.
Voire plus.
On vous rappelle que le 21 janvier dernier, Laurent Wauquiez, fraîchement élu à la tête de l'exécutif de la nouvelle région, a visité donc le lycée de Moiran. Donc l'endroit était symbolique pour lui, soi-disant, parce que cette commune de l'Isère était devenue un petit peu célèbre quelques jours, on va dire, après des émeutes qui ont eu lieu autour de la gare en octobre dernier. Laquelle gare est à quelques centaines de mètres de l'établissement. Donc lors de cette visite, on le rappelle, Laurent Wauquiez a annoncé la mise en place rapide, sous un délai d'un mois et demi, deux mois, d'un système de portiques et badges afin de s'assurer que n'importe qui ne puisse pas rentrer dans les lycées. Le coût est annoncé environ 100 000 euros par établissement. Donc ce lycée-là de Moiran est pilote, enfin du coup est parce qu'on y reviendra plus tard. Une quinzaine d'autres doivent suivre avant que la mesure ne soit généralisée à l'ensemble des établissements pour un coût global de 20 millions d'euros dans un délai d'un an. Donc ce fameux président d'Auvergne-Rhône-Alpes en a le pouvoir, la gestion des lycées est dans son lot de compétences. Objectif de Laurent Wauquiez, enfin soi-disant, lutter contre le trafic de drogue. C'est vrai que du coup, en mettant des portiques, forcément, c'est fini tout ça, quoi. C'est vrai que quand on a du cannabis dans les poches, ça sonne.
Le cannabis est en ferraille, c'est ça.
C'est ce qui me semblait. À part si c'est très coupé, quoi, mais voilà. La lutte contre les intrusions d'armes à feu, tout à fait. Ça, du coup, c'est vrai qu'on en voit beaucoup aussi dans les bahuts. C'est peut-être qu'il regarde trop la télé, les séries américaines, souvent, je ne sais pas, ce Laurent Wauquiez, Laurent Wauquiez, peut-être, tu vois. Enfin, il faut trouver un nom américain, ce gars-là.
Wauquiez.
Et la protection dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Oui, c'est vrai que des portiques, ça va empêcher des gens de pouvoir rentrer et buter des gens. C'est bien connu aussi, ça se passe très bien dans les aéroports notamment, tu vois.
Ça, ils vont pas rentrer. Hein,
voilà, ouais. Et donc du coup, une fois les caméras de télévision parties, les équipes techniques du lycée de la région, donc là c'est issu d'un article de Rue 89, hein, je ne l'ai pas dit, Lyon, mais du coup vous pouvez le retrouver en intégralité. Donc les équipes du lycée de la région et de la gendarmerie donc, se mettent au travail. Si Laurent Wauquiez a choisi le lycée de Moiran, c'est aussi parce que son proviseur a fait une demande en octobre dernier pour mieux filtrer les entrées et sorties de son lycée. Le proviseur de Moiran s'explique, hein, nous n'avons pas de problème d'intrusion. C'est un lycée tranquille, même s'il y a beaucoup de flux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même mettre des portiques. Dans le dossier initial, il était demandé que pour chaque portail, leur motorisation pour une commande à distance, une caméra de surveillance et un interphone, car actuellement, ces portails restent constamment ouverts. Une réunion technique est organisée donc fin janvier pour évoquer la mise en place des portiques de Laurent Wauquiez. Elle aboutit à un consensus, l'abandon des portiques de sécurité au sens détection des métaux. C'est le proviseur qui l'écrit donc sur le blog du lycée, hein, dans un poste qui est intitulé « Sécurité des élèves et des personnels du lycée Pierre Béguin ».
La détection des métaux dans un lycée, c'est quand même assez... Enfin, je veux dire, tout le monde a des ciseaux dans sa trousse, quoi. Donc
ça
va poser
ça
problème quand
beaucoup
même à l'entrée,
temps pour
ça risque de sonner
vider
beaucoup.
Toutes ces trousses, quoi, donc voilà. Donc à la place des portiques, l'idée, c'est de mettre des tourniquets, autrement appelés tripodes escamotables. Donc ça a été évoqué, mais cette piste a été également abandonnée lors de la réunion technique au lycée de Moiran. Donc contacté par rue 89 Lyon, le proviseur s'en explique. Pour Jean-Christophe Poyon, deux problèmes se posent. Un problème de sécurité. Les tourniquets sont facilement franchissables. Tu m'étonnes, comme dans le métro, pas avant. On peut les sauter comme on le voyait autrefois dans le métro parisien. Et un problème de flux. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit dans une autre émission. On a 1000 élèves et entre 100 et 300 adultes pour de la formation continue. Ça pose question pour le fonctionnement. Que va-t-on faire pour les élèves qui ont oublié leur badge et pour les adultes qui se présentent? La direction de l'établissement avait mis l'accent sur la sécurisation des quatre portails d'accès, l'option privilégiée étant le dispositif couloir rapide, comme dans le métro lyonnais, qui aurait pu être disposé au niveau de la clôture d'établissement. Voilà, donc lors de la commission permanente, l'option portée par le lycée des couloirs rapides a été abandonnée aussi, pour une question de coût. 25 000 euros le couloir. Et l'option des tourniquets a finalement été validée. Donc, pour passer par-dessus, c'est formidable, enfin, n'importe quoi. Contre l'avis de la direction du lycée. À Moiran, même si les tripodes escamotables ne correspondent pas aux besoins, la région a donc décidé d'en installer 6. 3 par entrée principale et à 5000 euros pièce. À moins de sous à dépenser.
Et puis attention, parce que la dernière fois, on se rappelle qu'il avait été très bon en calcul.
C'est
donc,
ça, en plus,
si,
il s'est trompé,
si,
voilà.
Aussi bon cette fois-ci.
Donc, ils seront installés derrière les deux portails. La région assure au proviseur qu'avec ces 6 tourniquets, le problème de flux sera réglé. Éléments censés rassurer les usagers du lycée, les tripodes seront connectés à l'alarme incendie. En cas de déclenchement de l'alarme, ils sont désactivés. Oui, ce serait con s'il y a un incendie si les gens restent bloqués par le tourniquet. Enfin, l'exécutif régional a également répondu à la demande d'installation de 4 caméras de surveillance. de la commande à distance de ces portails et d'interphones, comme le souhaitait par ailleurs le proviseur. Bon, bref. Au final, l'installation de ces tripodes escamotables semble être une question de symbole pour l'exécutif, afin qu'il ne soit pas dit que Laurent Wauquiez a abandonné les portiques sur lesquels il a tant communiqué pendant sa campagne électorale. Tu m'étonnes quand même. Hein. Dans le communiqué qui a fait suite à la commission permanente du 11 février, l'exécutif régional annonce vouloir débloquer donc 100 000 euros par lycée pour sécuriser également immédiatement les 15 lycées de la région, soit l'enveloppe de Moirans multipliée par 15. Et ils insistent dessus, mais du coup, ça se fera jamais. Donc Laurent Wauquiez veut sauver la face. Il joue sur les mots et continue d'entretenir le flou pour refuser de parler d'abandon de sa proposition de portique. Quand on interroge son entourage sur le sujet, on nous rétorque qu'il n'a jamais été question de détecteur de métaux en la matière, mais de contrôle des accès. C'est totalement faux, hein, c'est ce qu'il avait dit au début. Hein. Certains essayent donc d'entretenir une polémique sémantique, selon eux. Et ils visent forcément le groupe d'opposition, mais ça, c'est le petit jeu politicien habituel. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que bah, ça se mobilise au niveau des lycéens. Donc en fait, il voulait faire ça dans 15 lycées. Donc moi, j'ai un peu cherché de partout. Pour l'instant, il a annoncé deux lycées en Haute-Savoie.
Des lycées pilotes.
Deux lycées en Isère, ouais, des lycées pilotes. Et normalement, il devrait y en avoir dans le Rhône, mais pour l'instant, bah, ils ne sont pas donnés. Enfin, ils savent que ça va merder, parce que du coup, ça va se mobiliser forcément. Et notamment les lycéens de la Côte-Saint-André, donc qui refusent les portiques de Laurent Wauquiez. Après une première mobilisation dans le lycée de Moirans, parce que du coup, les lycéens de Moirans et lycéennes sont aussi mobilisés contre ça, donc qui devaient être pilotes du dispositif, un établissement de la Côte-Saint-André a fait savoir qu'il ne désirait pas installer ses nouveaux équipements de sécurité. Donc jeudi matin, donc ça remonte à la semaine dernière, il me semble, 250 élèves ont bloqué l'établissement pour protester contre la mise en place de dispositifs de régulation des entrées dans le lycée. Un mouvement soutenu par le corps enseignant. Le lycée de Moirans a finalement annoncé l'installation de tourniquets à la rentrée, dans ce qu'on dit tout à l'heure. Les élèves pourront donc accéder à l'établissement grâce à des badges. Et mais il y a aussi un blocus des élèves au lycée Hector Berlioz. Oh ben c'est le même, excusez-moi, de la Côte-Saint-André, excusez-moi, c'est le même lycée. Donc voilà, ça commence à se boucher, ça se bougeait. Et donc du coup, on espère que dès qu'on aura les noms des lycées du département du Rhône, on vous les donnera très vite. Pour que vous puissiez vous mobiliser et bloquer aussi votre bahut pour protester contre tout ça. Donc voilà pour ce petit point portique devant le lycée. Maintenant, on va voyager un petit peu. On va vous emmener au Québec, car le Québec, eh ben, emmerde le Front National. Il se trouve qu'il y a Marine Le Pen qui se trouve là-bas pour la semaine et qu'il y a des antifascistes, mais pas que, qui ont accueilli Marine Le Pen comme il se doit. Donc, je vous lis le petit texte qui a été écrit. Alors Marine, des regrets. Préparée dans la plus grande discrétion, la visite de Marine Le Pen au Québec est en effet pour le moment un véritable fiasco. Depuis son arrivée vendredi dernier, aucun des partis contactés par le Front National n'a souhaité lui faire rencontrer l'un de ses représentants. La plupart disant n'être même pas au courant de sa visite. Une seule rencontre informelle a eu lieu avec quatre jeunes, entre guillemets le jeune, hein, militants du parti québécois, le PQ, comme quoi, pardon. Mais Sébastien Chenu, le monsieur culture du FN, emporté dans les bagages de Marine Le Pen, s'est un peu vite réjoui sur les réseaux sociaux d'avoir pu enfin parler à quelqu'un. Le dirigeant du PQ, Pierre-Carl Péladeau, a en effet condamné vivement la rencontre. Je tiens à dissocier formellement notre formation politique, blablabla, et ses instances de toute activité ou rencontre issue d'initiatives personnelles avec des représentants de ce parti dont l'histoire, la doctrine et les propositions sont aux antipodes des valeurs du fameux PQ. Même son cloche au Bloc québécois, à la coalition Avenir Québec, etc. Même Bernard Drainville, le promoteur de la charte des valeurs, a dit qu'elle pouvait rentrer chez elle. En même temps, si vous pouvez la carter un petit peu, ça nous arrangerait, nous. Quant à Sophie Stanquet du mouvement Montréal français qui défend la pratique du français au Québec, elle a précisé ne pas parler la langue du Front National et a refusé de rencontrer la présidente du FN qui avait pourtant fait de la francophonie l'un des principaux thèmes de sa visite. Excusez-moi, vous voulez me couper ? Allez-y.
Non, mais dans la suite, il y avait même une soirée de remise de prix de cinéma, je sais plus trop quoi, où il y a quelqu'un qui a pris la parole justement après s'être fait remettre un prix et qui a parlé d'elle en disant qu'il n'en voulait pas ici et qui s'est fait, enfin toute la salle s'est levée pour l'applaudir.
Très bien.
Encore une fois, quoi, tout le monde l'a vraiment.
Tout le monde ne voulait pas la voir
chassé.
Là-bas. Pour quelqu'un donc qui prétend prendre la tête d'un pays, ça la fout mal. Finalement, les seuls à avoir accepté de rencontrer Marine Le Pen ont été jusqu'à présent le député de Mercier Amir Kadir qui, bien que ses idées soient à l'opposé de celles du FN, a proposé par humanisme entre guillemets de rencontrer, par pitié on pourrait dire du coup, de rencontrer la présidente du Front pour lui montrer que le Québec n'est pas un terrain xénophobe. La poignée de militants racistes de Pédiga Québec qui se sont fendus d'une lettre ouverte assez pathétique dans laquelle il la remercie de lutter contre entre guillemets l'envahissement de cette pauvre France qui est en train de succomber aux mains de la trahison. Et bien sûr, les antifascistes québécois. Si en France, Marine Le Pen joue la diva et fait mine de bouder les journalistes, elle avait quand même organisé une conférence de presse dimanche dernier à la salle de conférence de l'hôtel Mario de Place Diouville, histoire d'essayer d'empêcher que sa venue reste un non-événement. Mais avant même qu'elle ait pu ouvrir la bouche, un groupe d'antifascistes a fait éruption derrière une banderole sur laquelle on pouvait lire « Ici, terre d'accueil, on préfère l'arrivée de milliers d'immigrants et immigrantes que la venue d'une seule raciste », et en criant les slogans « Le Pen facho, tolérant zéro » et « Québec emmerde le Front National ». On ne se refait pas. Et les réflexes violents de l'extrême droite ont été plus forts. Un sympathisant FN a commencé à agresser physiquement une jeune antifa, tandis que Marine Le Pen, se rappelant probablement le vocabulaire appris dans ses jeunes années auprès du Gudard Châtillon, a tenté de cacher son agacement en ironisant sur les 5 ou 6 bolchos crasseux. C'était pas des bolchos d'abord, venus gâcher leur fête, leur conseillant d'aller prendre une douche, entre guillemets, hein. Jean-Marie sort de ce corps. Son garde du corps Thierry Légier, jouant les fins limiers, croit quant à lui reconnaître un antifasciste parisien. Mais ils ont vraiment tout faux, ils sont trop forts. Mais n'en déplaise à la mère Le Pen, les antifascistes québécois n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Un comité d'accueil montréalais pour Marine Le Pen est d'ailleurs monté pour aller l'emmerder jusque sous les fenêtres de son hôtel de luxe, le Mario Château Champlain Hôtel. L'Observatoire de la Richesse, qui est à l'initiative de l'événement, précise avec humour que des groupes militants de France nous implorent de la garder chez nous, ou au pire de la convaincre de retourner chez elle en bateau, lentement, à partir de Saint-Pierre-et-Miquelon. On ne saurait mieux dire. Voilà, Marine Le Pen est encore au Canada jusqu'à la fin de la semaine. Son agenda a été bien étudié par les antifas locaux, qui lui réservent encore peut-être quelques autres surprises. On vous tiendra au courant de tout ça.
Je crois qu'il y a eu des dates d'annulées, hein, d'ailleurs.
Ah, carrément, parce que du coup, on se retrouve vachement emmerdé par rapport à ça. On va faire un petit tour en Suède. Je vous ai dit qu'on allait voyager et je ne vous ai pas menti. Ça s'est passé le 19 mars 2016. Bah, l'extrême droite organisait là-bas une manifestation populaire, entre guillemets, hein, manifestation populaire, sur la place Nørremalmstorg, pardon, dans le centre de Stockholm. Officiellement, il s'agissait de réclamer la démission du gouvernement, mais au vu des organisateurs et participants, démocrates de Suède, Nordisk Ungdom, site xénophobe Afpixlat, désolé, et les soldats d'Odin. Pas mal. Comme d'habitude, il était clair qu'il s'agissait d'une manifestation à caractère raciste. À la suite de leur dernier rassemblement le 30 janvier dernier, un groupe de 50-100 personnes masquées s'en était pris à des personnes considérées comme étant étrangères. C'est dans ce contexte qu'une contre-manifestation avait l'objet d'un appel sur les réseaux sociaux. Les antifascistes furent beaucoup plus nombreux, entre 500 et 1000 personnes selon les sources, que les fascistes, moins de 100. Alors que des cartes police les séparaient, les antifas couvrirent les discours du camp adverse. Selon un journal dont je ne vous dirai pas le nom parce que j'ai pas l'accent, 3 Polonais participant à la pseudo-manifestation populaire furent arrêtés car soupçonnés d'agression. Par ailleurs, en solidarité, un groupe Anonymous suédois réussit à fermer le site de la manifestation d'extrême droite. Et on va maintenant à Rome. Voilà, pour les élections municipales, car sur 4 candidats sur 7, admire, on ira dans le mille, Mussolini, le fascisme se porte bien à Rome, à lire les affiches sur les panneaux électoraux de la capitale d'Italie, on a parfois l'impression que les héritiers revendiqués de Benito Mussolini sont seuls en lice pour les élections municipales de juin. 4 des 7 candidats de droite déclarés ou potentiels ont encore une admiration plus ou moins avouée pour lui, et le Ventennio, c'est 20 année de 1922, marche Rome à 1943, chute du régime, pendant lesquelles la péninsule tout entière a été administrée par les chemises noires. On va vous donner les noms, hein. Giorgia Meloni, née en 77, elle commence à militer à 15 ans au Front de la Jeunesse pour devenir à 21 responsable Azione Studentesca, la branche étudiante du parti Alliance Nationale, construit sur les cendres du mouvement social italien, le MSI, fondé en 46 pour entretenir la mémoire de Mussolini. Députée à 29 ans, ministre à 31 dans le dernier gouvernement Berlusconi, Giorgia Meloni, qui a adhéré au parti Fratelli d'Italia, dit avoir, entre guillemets, un rapport serein avec le fascisme et considère que Mussolini, entre guillemets, est un personnage complexe qu'il faut juger à travers l'histoire. Magnifique. On a aussi Francesco Storace, 57 ans, secrétaire national du parti La Destra, la droite, vient lui aussi d'Alliance Nationale, une formation qu'il a quittée lorsque son leader, Gianfranco Fini, a été condamné le fascisme en déclarant qu'il était le mal absolu. Ministre de Berlusconi, encore, lui aussi, ancien président de la région de Latium, Storace est farouchement opposé aux unions homosexuelles, à la pilule abortive du lendemain et à tout modèle familial qui ne soit pas fondé sur le mariage. En 2005, il déclarait « Il n'y a pas de doute, Mussolini a été un grand homme d'État, j'aime la démocratie, mais de là à dire que le Duce a été le mal absolu, il ne faut pas exagérer. » C'était entre guillemets tout ça, hein, bien sûr. Hein. Avec Simone Di Stefano, on franchit la frontière de l'extrême droite non institutionnelle, non recyclée, du moins pas encore, dans le jeu des partis des alliances. Vice-président de Casa Pound, une officine d'extrême droite dure qui a pignon sur rue à Rome, Di Stefano s'est rapproché un moment de Matteo Salvini, le leader du parti anti-immigré de la Ligue du Nord. Salvini soutenant dorénavant Giorgia Meloni, Di Stefano s'en est éloigné pour mener sa route en solitaire. En décembre 2013, il déclarait à propos de Nelson Mandela, attention, entre guillemets, il a gagné sa révolution avec des méthodes indignes, terroristes, financées par les pires intérêts économiques mondiaux. Ce n'est pas un Père Noël africain, merci. Enfin, dernier élément de ce tableau noir, Alfredo Iorio. On retrouve son nom dans tous les groupuscules de l'extrême droite romaine. Officiellement, il anime un cercle culturel baptisé Trifoglio Popolo della Vita, le trèfle, le peuple de la vie, qui milite contre l'avortement. Il est également à l'origine d'un obscur mouvement social européen. Son nom est aussi apparu dans l'affaire du meurtre d'un supporter de Naples par un supporter de l'AS Roma en marge d'une rencontre de football au Stadio Olimpico, le stade devant lequel se dresse toute blanche une colonne à la gloire du Duce, sans que personne ne paraisse s'en émouvoir. Donc voilà, et puis on voulait faire un petit point aussi sur Calais, pour revenir en France.
Ouais, sur Calais, par rapport au fait que la semaine dernière, le centre d'information juridique a été incendié. Donc je vais lire le petit communiqué qu'on vient de me passer. Le centre d'information juridique a été créé par l'appel de Calais. Il a ouvert en janvier dernier au cœur du bidonville dans une grande cabane construite par Charpentier sans frontières, faisant intervenir des juristes et des traducteurs et traductrices bénévoles. Il travaille à l'information sur l'asile, l'accès aux droits des mineurs, notamment ceux qui ont de la famille au Royaume-Uni, les violences qu'elles viennent de la police ou de l'extrême droite. L'incendie intervient le lendemain d'une conférence de presse qui a fait le point des violations des droits liées à la destruction de la partie sud des bidonvilles, du bidonville, et sur le mouvement des grévistes de la faim. Les cendres de la cabane juridique de l'appel de Calais, qui a brûlé jeudi en fin de journée, sont encore fumantes. Devant, les consultations juridiques continuent, debout, à l'air libre. Le bâtiment a brûlé, l'activité continue. À deux pas, un groupe d'exilés démonte consciencieusement la cabane de secours catholique, laissée à l'abandon. Les abris manquent dans la partie nord, où se sont repliées la plupart des personnes expulsées. Les matériaux sont précieux pour reconstruire. Au sommet d'un arbre, un drapeau afghan noirci par les flammes. Tout autour, un espace dévasté. Subsiste encore, en vertu du jugement du tribunal administratif, le long du chemin des dunes, deux mosquées, la tente de Médecins du Monde et l'école d'art, et à l'ouest, au long de ce qui était l'une des rues principales du bidonville, un ensemble constitué de l'église, de la bibliothèque et école Jungle Books, de la cabane de Médecins sans frontières et du centre d'information de Calais Migrants Solidarity, et à l'extrême sud, l'école laïque du chemin des dunes avec le dispensaire de gynécologie sans frontières. Dans la partie nord, un bus anglais à deux étages accueille les femmes et les enfants en remplacement du centre qui était dans la partie sud. Une cabane est en construction pour abriter la radio de Jungle Books. La cuisine collective Ashram s'est réinstallée dans un espace nouvellement défriché. De nouveaux magasins se sont installés et une nouvelle discothèque a ouvert ses portes. Témoignage d'une vitalité résiliente malgré la violence de l'État. À propos d'État, la préfète a rencontré les associations cet après-midi. Elle a parlé d'aménagement de la partie nord, ce qui laisserait entendre qu'elle ne serait pas détruite, à moins que si les plus béats colportent la nouvelle que la partie nord est sauvée. Des personnes plus prudentes craignent une fausse annonce pour désamorcer les oppositions. Les sceptiques font remarquer que dans aménagement, il y a ménage et ment. La parole de l'État est totalement démonisée, c'est pas mal ça. Et de toute façon, pour que les habitants et habitantes puissent jouir d'un minimum de sécurité quant à leur installation, il faudrait une forme de contractualisation de l'utilisation du terrain où se trouve le bidonville. Ce que l'État, n'étant pas propriétaire, serait bien en mal de faire. Il y a de l'électricité là-dedans. Juste pour dire, du coup, il y a deux semaines, pour celles et ceux qui nous écoutaient, on a une copine qui était à Calais qui est venue discuter. Et donc, il nous a appelé jeudi dernier pour nous dire qu'elle était devant la cabane juridique, donc qui était en train de cramer et que c'était vraiment désolant. Une cabane qui avait été construite donc dans un effort collectif avec des dons qui avaient été donnés. Et pour l'instant, on ne sait toujours pas si... Oui, il y avait des noms qui avaient été donnés. J'ai bien vu que tu étais de moi et effectivement, tu avais raison. voilà, maintenant j'ai perdu mes mots.
C'est pas grave.
Mais donc, on ne sait toujours pas en fait donc, si l'incendie est d'origine criminelle ou non, mais a priori, il n'y avait pas de raison.
On sent bien un petit peu le côté criminel.
Voilà, on sent bien le coup. Alors après, est-ce que c'est des FAF ou des flics pour l'instant?
Ou les deux, parce que des fois, ça marche aussi.
En même temps, il y a un petit lien de corrélation. Ouais. Donc c'est pas drôle. Et a priori, en plus, ouais, la partie nord. Ils commencent à craindre très sérieusement l'expulsion aussi, quoi. Donc on sait toujours pas ce qui va devenir de tous ces gens qui sont là-bas, déjà dans des conditions plus que terribles.
Donc on refera un point de toute manière assez régulièrement sur Calais. On vous invite également, si vous voulez nous contacter, si vous êtes allé dans le coin, si vous voulez faire une petite intervention, il n'y a pas de souci. On verra. verra après. Ouais. Du coup, on va juste faire, du coup, pas deuxième pause musicale, mais on va faire la deuxième salve de lutte sociale, parce qu'on approche bientôt du coup de la fin de l'émission. Il reste 10 minutes, et puis oui, après, on parlera d'autre chose, si on a le temps.
Allez, deuxième page donc de ces luttes sociales, un peu en vrac, hein, parce que il y a des grands événements en ce moment, mais enfin, il y a toujours ces petites luttes. Il n'y a pas de petites luttes, il n'y a que des grandes luttes, mais enfin, bon, il faut en parler. Et on va aller à Lille, chez Exceed, donc une société, une entreprise qui fabrique des batteries pour l'automobile et qui a son propre service de prestataire en la personne de la société Samzik, qui fait dans la surveillance et la sécurité. Donc les salariés de Samzik, parce que c'est d'eux qu'il est question, exigent les mêmes protections contre le plomb. Et je ne parle pas du plomb envoyé éventuellement par les flics, c'est drôle, mais bien le plomb utilisé dans la fabrication des batteries et qui tue à petit feu. Pour exiger, ils ont donc manifesté le 15 mars une dizaine de personnes employées à la sécurité du site qui est classé Céveso. À Besançon, c'est le conseil régional et des techniciennes de surface qu'on emploie généralement pour indiquer que ce sont des femmes de ménage et qui bossent donc dans les locaux pour la grande maison de Richebourg, encore elles, et qui n'étaient pas payées. Salaire non perçu, grève donc spontanée le 11 mars, apparemment sans aide syndicale. Et ben, qu'advint-il ? Et ben, les salaires ont été versés et s'il vous plaît, de suite. La nouvelle ne nous disait pas quelle suite a été donnée à cette nouvelle affaire de Richebourg. À Paris, c'est un conseil général cette fois, avec des manifestants, des manifestantes devant donc ce conseil général le 18 mars. Alors on dirait c'est banal, ben non, pas tant que ça, puisque les manifestants et manifestantes en question, 150 personnes, sont des ex-salariés du pôle énergie Alstom. Je dis bien ex, puisque c'est devenu depuis un certain temps, grâce à M. Sarkozy, General Electric. Alors, quel est le courroux ici ? Ben, les suppressions d'emplois, 765 suppressions d'emplois, et des mesures d'accompagnement indignes, indécentes. 150 personnes venues des sites de l'Île-de-France, puisque c'est là que 90% des suppressions de postes se feront sur cette région. Dirigée par Valérie Pécresse depuis quelques temps, des temps récents, alors que la division énergie renouvelable de General Electric est dirigée par Jérôme Pécresse, donc qui ont convolé en juste noce à un certain moment. Alors de Paris à Nevers, il n'y a qu'un pas. Alors, avec un rendez-vous, cette fois que je vous donne chez Look, fixation, avec une grève qui a débuté le 9 mars. Donc, nous sommes là au 21 mars, avec 110 salariés, quasi tous engagés. Deux acquis sociaux que la direction veut faire péter. Le paiement des temps de pause et 10% sur la rémunération des congés payés. On ne se gêne pas. Perte sèche, donc une semaine de salaire quoi sur une année. Alors attention, je dis bien attention, Gattaz attaque. Il a des munitions et aussi des soutiens. Ajaccio, île de beauté, donc une assemblée générale qui vote. La grève, c'est normal, c'est au centre hospitalier de la Miséricorde, le bien nommé. Les bureaux de la direction ont été bouclés, ce qui veut dire grosse colère qui vient d'une gestion catastrophique et qui met à mal les conditions de travail, l'avenir aussi donc de ce centre hospitalier. Donc il faut que ça bouge. Il y a la CGT et la CFDT qui sont sur place. On demandait une entrevue au préfet pour effacer une angoisse qui dure depuis 8 ans avec 6 dirlots qui se sont succédés. Donc là, il y a un réel problème. Et puis de l'île de beauté, on passe à l'île-et-vilaine. Elle est drôle. Elle est bien drôle. Et je ne l'ai même pas fait exprès.
On t'avait dit qu'on faisait des conneries.
Donc, de l'île de Beauté, on passe à l'île de Vilaine, à Vitré, exactement, donc en île et Vilaine. C'est le personnel d'une ADPI, l'IME La Baratière, personnel qui est en débrayage, 35 personnes sur 55.
On peut huer les 20 qui n'ont pas fait grève, hein, si vous voulez. Donc, de cet institut médico-éducatif, alors devinez, ben, encore une fois, les conditions de travail, la souffrance au travail, le management à la hussarde, le changement de direction est souhaité par les grévistes et souhaité vivement et en douceur et profondeur. Et pour terminer, ben, on va aller sur Toulouse avec une suite. C'est la suite, ben, c'est la Ligue qui nous la donne. C'est la Ligue de l'enseignement, hein, toujours en bagarre, du moins les salariés qui sont en bagarre. Et ça barde même sévère entre les grévistes et la direction. C'était le 22 mars devant le TGI où était examiné le cas de la Ligue en question. Avec ce redressement judiciaire qui les touche pour des difficultés financières. La Ligue a en gestion des centres de loisirs pour le compte de la mairie. Les difficultés devront être payées par les salariés et les employés. Donc pas question de... Mais ils ont réagi, donc et pas question de licenciement et de suppression de postes, encore moins de mutation. Ça a bardé à un point où on a dû faire intervenir les flics en protection des responsables de la Ligue. Et à Toulouse, bah, même les mémés et les pépés aiment la castagne. Et ça, ça dure depuis 5 semaines. Et le prochain épisode, eh bien, ça sera le 29 mars. Et toujours au tribunal de grande instance de Toulouse. Voilà pour les luttes de ce soir, les amis.
Ok, ok. Et bah, du coup, on va finir par une dernière petite info. Parce ouais.
Tout à fait. Du coup, aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient pas au courant, peut-être que vous en êtes rendu compte parce que votre bus a été bloqué à partir de Barème ou de Parc de la Tête d'Or. Mais Monsieur François Hollande, notre cher président, était à Lyon. Il a fait une petite visite. Alors, on a pensé qu'elle était peut-être annulée après les attentats de Bruxelles. Mais finalement, non, il était là. Et le Parc de la Tête d'Or ainsi que toute la Cité internationale ont été fermés pour lui souhaiter une bienvenue. Et finalement, on s'est dit que François Hollande était beaucoup plus efficace pour bloquer Lyon que les cheminots lors de la grève du 9 mars où ils ont bloqué plus de 1040 trains sur 1200. Hélas, si nous devons compter sur François Hollande pour arrêter la loi travail, on est mal barré. Et je passe le micro.
Ok, il passe, c'est parti. Il nous reste 3 petites minutes. Juste pour vous dire, bah, y a un article éventuellement que je voulais vous lire tout à l'heure, mais que je vous laisse le trouver. Du coup, on a parlé tout à l'heure des AG étudiantes, et il y en a notamment sur Paris, et avec un article qui était publié sur des témoins qui dénoncent l'évacuation violente de la fac de Tolbiac par les CRS, voilà, avec un amphi qui a voulu être occupé et qui du coup a été durement, voilà. Donc il y a des images diffusées par, vous pouvez le trouver sur le site Street Press. Donc voilà, tout en sachant.
On peut le trouver un peu partout, je pense, en tapant évacuation de Tolbiac. Quoi.
Donc voilà, donc ça a été assez rude. Voilà, je vous dis juste la fin. Du coup, sur le mur d'un renfoncement près de l'université, un tag ici on gaze les étudiants. En allant vers le parc, le comité de mobilisation nous montre aussi dans une rue adjacente un stigmate de ces débordements. Au sol, une tache de sang séché entourée avec cette légende. Ceci est le sang d'une personne matraquée par la police. On vous laisse retrouver tout ça parce que ça montre aussi voilà le degré de répression qu'il y a. On avait parlé un peu la semaine dernière à Lyon de l'étudiant arrêté en plein AG, des 2 lycéennes convoquées au commissariat pour une histoire de clé perdue. Ouais. Ben voilà, c'est aussi pour que le mouvement se stoppe. Et du coup, on n'hésite pas à envoyer la police dans les facs, dans les lycées, dans les bahuts pour faire peur, pour que la mobilisation s'arrête. Quoi. Voilà.
Bon après, si vous voulez vous changer un peu les idées, du coup, vous pouvez aller sur le site de l'université Rennes 2, où pour le coup, il y a une vidéo des mobilisations, où à un moment donné, un pauvre baqueux se retrouve légèrement isolé entre quelques manifestants, et bah forcément, à force de provoquer...
Petite vidéo qui font plaisir, voilà. Comme on dit. Donc voilà, moi du coup, on va terminer, on vous rappelle les principaux rendez-vous. Donc demain, 13h, place Bellecour, pour la manifestation contre la loi travail. Après au pire on lancera le générique parce que après j'ai d'autres trucs mais c'est un peu plus long. Donc on va juste rappeler du coup ça. Donc rendez-vous 13h Bellecour, vous pouvez nous rejoindre dans le cortège libertaire de cette manifestation. Et donc du coup on vous donne aussi rendez-vous.
Forcément, je suis pas prévenu. On vous donne aussi rendez-vous vendredi 25 mars, donc ce vendredi. à La Plume Noire, à la librairie La Plume Noire, donc au 8 rue Diderot, on le rappelle, à partir de 18h30 pour une rencontre, discussion autour de la loi travail, état d'urgence, pour nous connaître un peu, savoir ce qu'on fait. Donc il y aura le bar d'ouvert, il y aura de la bouffe, de la musique, ça va être sympa. Et voilà.
Voilà, donc on vous invite à nous rejoindre. On vous rappelle les permanences de la librairie de La Plume Noire, donc c'est toujours au 8 rue Diderot, les mercredis 17h-19h, les samedis 15h-19h, donc du coup, si vous voulez soutenir le lieu...
Sauf ce
week-end. Oui, mais du coup, j'allais y venir.
Ouais,
voilà, si vous voulez venir soutenir le lieu, du coup, en achetant pourquoi pas un ou deux bouquins, venez voir ce qu'on a en stock, ça permet de faire tourner le lieu aussi, de venir discuter aussi, c'est le moment de venir discuter. Et donc, pour effectivement ce samedi, petite permanence au tout début, ouais, de 15h jusqu'à 16h30, puisqu'après, du coup, le local sera pris par autre chose. Donc voilà, on vous donnera rendez-vous du coup le mercredi d'après et le samedi d'après. Donc voilà, on vous rappelle aussi qu'on a un site internet cgalyon.ouvinton.org, une page Facebook cgalyon, un Twitter. Enfin voilà, vous pouvez nous suivre un peu de partout. Et puis n'hésitez pas à nous contacter par mail. groupe-lyon@c-g-a.org si vous voulez plus d'infos voilà, sur notre organisation, si vous voulez vous investir un peu plus. On vous rappelle également qu'on fonctionne par front de lutte, à savoir on a un front de lutte syndical, un front de lutte anti-patriarcat, un front de lutte anti-raciste, un front de lutte jeunesse, et que du coup ces fronts de lutte se font via des commissions et que ces commissions sont ouvertes aux sympathisants et sympathisantes et non pas qu'aux adhérents et adhérentes de la CGA. C'est-à-dire que vous pouvez vous investir également sur les différents sujets que nous portons. Voilà, donc si vous voulez, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre plus de renseignements, et puis on va vous laisser tranquillement avec le générique, le temps que le camarade de la lumière du frigo se mette en place. Il y a quelqu'un à la technique qui assure.
Ouais, ouais, ça rigole pas. Hein.
on vous dit à mercredi.
Il y a mercredi prochain, du coup. Ouais.
Salut,
bonne soirée.
Bonne soirée.